Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Jusqu'au 15 juillet, dans le monde entier, par centaines de millions de téléspectateurs et d'auditeurs, le football va enflammer les adeptes, fouetter les passions nationales et électriser les discussions d'initiés. Le mondial a commencé avant-hier par la victoire écrasante de la Russie sur l'Arabie Saoudite, 5-0, de bon augure pour son grand ordonnateur Vladimir Poutine. En plein bouleversement de ce qui tenait lieu d'ordre international, cette Coupe du Monde, la plus chère de l'histoire, doit aux yeux de Poutine démontrer de façon éclatante la puissance de la Russie, sa grandeur, sa capacité à convaincre et à séduire de nouveaux partenaires, à commencer par ces Européens dont les démocraties vacillent. Balayer les scandales de corruption et de dopage qui ont souillé les Jeux de Sotchi, oublier les affaires d'empoisonnement et d'ingérence dans les campagnes électorales occidentales, fini l'isolement de Moscou, sanctionné après l'annexion de la Crimée. Place au sport et à ses valeurs auxquelles le maître du Kremlin est personnellement tant attaché. Comment ce mondial 2018 va-t-il s'inscrire dans l'histoire sportive et politique du pays ? Jusqu'où Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 18 ans maintenant, cherche-t-il ainsi à exercer une autre forme d'influence ? Quel écho au sein de l'opinion publique russe ? Quel impact sur le plan économique et quel éclairage aussi sur les liens particuliers entre le Kremlin et ses affidés, les oligarques ? Quels sont les risques à surmonter pour que Vladimir Poutine applaudisse dans un mois à son propre triomphe ? C'est ce que nous allons explorer ce matin en partenariat avec l'équipe. Vous savez que toutes les émissions de France Culture sont en partenariat avec le quotidien L'Équipe ce week-end, ce qui n'enlève rien, cher Éric Scholl, à nos liens avec Courrier International. Donc on va explorer ça ce matin grâce à Jean-Christophe Collin, journaliste et grand reporter à L'Équipe, qui est aujourd'hui à Grozny, capitale de la Tchétchénie. Avec vous, François Tom, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'Union soviétique et de la Russie post-communiste, vous enseignez l'histoire à l'université Paris-Sorbonne. Julien Vercueil, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'INALCO. Et par téléphone, depuis le centre d'études franco-russes à Moscou, Sylvain Dufraisse, vous êtes maître de conférences en histoire du sport à l'université de Nantes. J'ai demandé à Jean-Christophe Collin, avec qui j'ai pu enregistrer un entretien avant cette émission, pourquoi Grozny ? Est-ce que cela veut dire que cette Coupe du Monde est organisée dans plusieurs villes symboliques de l'immense territoire russe ? Grozny, bien sûr, capitale de la Tchétchénie, gouvernée par Ramzan Kadyrov, qui véritablement a fait du football l'un des éléments de son culte personnel. Jean-Christophe Collin, quel est donc, vu de Grozny, le sens à donner à ce choix?
Le pouvoir russe, Vladimir Poutine, l'organisation de cette Coupe du Monde en Russie, n'a pas choisi les lieux à la fois des rencontres et des emplacements où se trouvent les équipes au hasard. Il y a forcément une approche très symbolique, notamment Kaliningrad par exemple, qui montre la présence et la puissance russe en Europe. Là, je me trouve à Grozny parce que l'équipe d'Égypte, c'est-à-dire un comité d'organisation, a accepté que l'équipe d'Égypte ait installé son camp de base à Grozny. Donc, c'est pour montrer que le Caucase, par exemple, est une zone sous contrôle du pouvoir russe. Et c'est pour montrer que le pouvoir russe, à travers le sport, par l'exemple du football, maîtrise l'ensemble du territoire et notamment le Caucase et la Tchétchénie, qui est vraiment un territoire particulier, et notamment pour Vladimir Poutine. On se souvient que c'est grâce à la seconde guerre en Tchétchénie qu'il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, Ramzan Kadyrov a bien entendu récupéré la présence de l'équipe d'Égypte et notamment de Mohamed Salah, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, lors de cette préparation pour cette Coupe du Monde.
Ce qui prouve bien à quel point l'enjeu est d'abord politique.
C'est pour le Kremlin, pour Vladimir Poutine, et surtout actuellement, un enjeu de pouvoir et d'image extraordinaire pour lui. C'est une occasion inespérée, j'allais dire, pour inverser, pour modifier l'image de la Russie. Il va utiliser cette Coupe du Monde par-delà les médias, par-delà les pays, notamment occidentaux, pour montrer au monde une autre image de la Russie. Donc c'est un formidable pari. C'est-à-dire qu'il espère et il fait tout faire en sorte, et notamment les autorités, le FSB, les services de sécurité, pour que tout se passe très bien, pour envoyer une image positive de la Russie qui viendra un peu en rupture avec tout ce qui se passe depuis ces derniers mois, le soutien au régime de Bachar, l'affaire Skripal, l'annexion de la Crimée. Donc c'est utiliser le sport et utiliser le football, qui est un vecteur planétaire d'image extraordinaire, pour modifier l'image de la Russie qui est déltaire.
François Stomme, on comprend bien donc la dimension politique de cette affaire, qui va encore une fois durer un mois, mais tout cela intervient dans un contexte international et national à l'intérieur de la Russie, bien particulier.
Oui, en effet, ce championnat mondial tombe à point nommé pour Vladimir Poutine, qui a décidément toujours beaucoup de chance depuis le début. D'abord, d'un point de vue, je dis rapidement, d'un point de vue intérieur, il peut être utilisé pour faire, cette euphorie nationaliste qu'il suscite peut être utilisée pour faire passer des réformes qui ont été annoncées hier d'ailleurs, des réformes extrêmement douloureuses pour la population russe, puisqu'il s'agit d'allonger l'âge du départ à la retraite de 5 ans pour les hommes et 8 ans pour les femmes. Donc une réforme extrêmement impopulaire qui a été annoncée donc le jour de l'ouverture de la Coupe mondiale. Également annoncé l'augmentation de la TVA. Et tout ça dans un contexte économique difficile, puisque les prix de l'essence ont beaucoup augmenté. Donc
cette coïncidence n'est pas évidemment pas par hasard.
Non, c'est pas que l'annonce de ces réformes, bien sûr, elle était, je suppose, planifiée en même temps que l'ouverture des festivités. Alors, donc ça, c'est pour le plan intérieur déjà. En ce qui concerne l'utilisation en politique extérieure de cette cérémonie, la conjoncture est très favorable pour Vladimir Poutine, puisque il s'agit d'engranger en quelque sorte les bénéfices de la brouille entre les Européens et les États-Unis, avec la crise des relations entre l'Europe et l'Amérique de Trump. Au Kremlin, on estime que les élites politiques européennes sont en train de graviter vers Moscou. Et ce qui reste, le travail qui reste à faire, c'est de retourner les opinions publiques. Les opinions publiques dont on est bien conscient qu'elles sont encore extrêmement méfiantes à l'égard de la Russie. Donc pour que le travail de cooptation fait en direction des élites politiques de l'Europe soit véritablement payant, il faut que ce travail de cooptation soit accompagné d'un travail en profondeur de l'opinion publique en Europe, hein, parce qu'il s'agit bien sûr de l'Europe, il s'agit de faire basculer l'ensemble de l'Europe dans l'orbite du Kremlin. Non pas arrimer la Russie à l'Europe, mais arrimer l'Europe à la Russie. C'est le programme actuel.
Et c'est ce qui explique l'extraordinaire avalanche d'événements sportifs tout au long de l'année. Voilà. Ça n'arrête pas, enfin, des événements d'ampleur internationale
et
dans toutes les disciplines.
Sportifs et culturels, parce que l'effort porte non seulement sur le domaine sportif, mais aussi sur le domaine culturel. Tout ça est orchestré avec beaucoup de persévérance et je dirais que c'est une politique extrêmement cohérente et persévérante qui est menée depuis des années et dont les perspectives, encore une fois, du point de vue du Kremlin sont prometteuses.
Sylvain Dufraisse, merci d'être avec nous par téléphone de Moscou. Vous participez à un colloque organisé par le Centre d'études franco-russe. Vous êtes-vous spécialiste de l'histoire du sport ? de l'Union soviétique et puis, de la Russie. Alors, on sait que Lénine, en exil en France, faisait du vélo à longs jumeaux. J'ai lu ça quelque part. Mais au tout début de la révolution russe, le sport était considéré comme un passe-temps bourgeois.
Alors, c'est en fait paradoxal. C'est-à-dire que dans les années 20, il y a à la fois des pratiques de masse, comme le football, comme la boxe, qui ont beaucoup de succès et qui sont assez populaires. Mais ce n'est pas, en fait, les pratiques physiques que souhaitent promouvoir les dirigeants du mouvement de culture physique, les hygiénistes en particulier, qui veulent un sport qui soit un moyen d'édifier les masses, d'éduquer les corps et d'améliorer les performances des jeunes soviétiques. Et le sport, certains sports comme le football, la boxe, deviennent des sports repoussoirs qui véhiculent les valeurs du capitalisme, l'individualisme, le professionnalisme, l'affairisme, par exemple. Et on voit en fait un retournement au cours des années 30, et c'est en particulier vers 1934 que le sport devient un moyen de rattraper et dépasser les pays capitalistes, de se mesurer à eux. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'élite sportive est promue en URSS. Donc, ce tournant, il est un peu avant la guerre froide et il connaît une très grande accélération au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide, où le sport devient une des vitrines de l'Union soviétique et les sportifs deviennent des ambassadeurs de l'URSS à l'étranger. C'est après, dans les années 70, que les performances des soviétiques vont briller à l'international, que l'on peut dire que c'est dans les années 70 où l'on peut dire que le sport soviétique était à son apogée.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs le choix du célèbre gardien de but, Lev Yashin, qui était, je crois, le seul ballon d'or en 1963. Et donc c'est son image qui a été choisie pour symboliser cette Coupe du Monde.
Cette affiche, elle est très intéressante parce que elle regorge en fait de symboles soviétiques et de différentes périodes. Par exemple, on voit derrière une inspiration constructiviste. On voit également un ballon qui ressemble un peu à Spoutnik. Et c'est Lev Yashin qui a été choisi comme symbole. Donc Lev Yashin a été ballon d'or en 1963. Et comme Gagarine, il a fait partie de ces sportifs qui étaient les ambassadeurs qu'on envoyait à l'étranger, qui étaient un peu le visage souriant de l'Union soviétique. Donc en plus, c'est un gardien de but. Et dans le football soviétique, le gardien de but a un rôle particulier puisque le gardien de but est assimilé au dernier rempart, aux défenses, aux gardes frontières, à celui qui est le dernier rempart. Donc c'est pour ça que, en fait, ça fait référence à tout un ensemble de symboles de la période soviétique. Et donc ça crée aussi un pont entre la période soviétique et la période russe contemporaine, comme si aussi la Coupe du Monde permettait de réaffirmer, en fait, que l'histoire soviétique était intégrée à l'histoire russe.
Ce qui est étonnant aussi, c'est le succès de certains films. Il y a des films sportifs. J'ai vu qu'un film a été réalisé sur la victoire de l'équipe de basket soviétique contre les États-Unis en finale aux Jeux Olympiques de Munich. Donc ça, c'était 1972. Et ce film a battu tous les records d'entrée en Russie.
Oui. Alors, cette vogue des films sportifs, on la retrouve à partir de 2013, à partir d'un film sur le hockeyeur Karl Amov, qui a eu beaucoup de succès, qui a été projeté aussi à l'étranger. Et à partir de ce moment-là, le motif sportif, les sportifs deviennent des sujets de films. Il y en a eu plusieurs. Il y a par exemple eu un des premiers lutteurs qui s'appelait Ivan Padubnik qui a eu l'honneur d'avoir un film. Et plus récemment, donc il y a ce film d'Evgeny Verku qui a eu énormément de succès. Et qui s'intègre aussi à tout un ensemble de productions de films qui ont pour objectif de valoriser certains aspects de l'Union soviétique. Il y a également d'autres films sur la conquête spatiale qui ont beaucoup de succès. Et aussi, dernier point, il y a des séries télévisées sur ces sportifs. Donc il y a une volonté aussi de de les remettre en valeur.
Alors on sait bien sûr que Vladimir Poutine lui-même aime à se montrer dans différents équipements sportifs, notamment en hockeyeur, mais il paraît que c'est pas le sport où il brille le plus. On sait qu'il a fait beaucoup de judo. J'ai demandé à Jean-Christophe Collin, qui est donc journaliste et grand reporter à l'équipe, qui est à Grozny aujourd'hui, j'ai demandé à Jean-Christophe jusqu'à quel point, pour Vladimir Poutine lui-même, le sport a joué un rôle essentiel dans son parcours.
Le sport est central à la fois dans la vie personnelle de Vladimir Poutine et dans sa manière d'exercer le pouvoir. Dans sa vie personnelle, c'était un enfant des rues de Leningrad. Ses parents habitaient un communalka, un appartement communautaire, donc il était très souvent dans les rues de Leningrad et notamment, il fallait faire le coup de poing, il fallait se faire respecter. Donc c'est comme ça qu'il a commencé par la boxe, mais il s'est fait casser le nez, donc il a changé, il est allé dans un club de sambo, qui est un art martial lié au service de sécurité en Russie, très propre au sport soviétique à l'époque et russe aujourd'hui. Et ce club de sambo est devenu ensuite un club de judo avec le passage du judo comme discipline olympique. Et ce club, qui était entraîné par un personnage qui va beaucoup compter pour lui, qui s'appelle Anatoly Rakhlin, qui est un professeur du judo assez charismatique, qui sera un peu son père spirituel, et qui va lui inculquer les bases et une espèce de mode de vie, et qui était très très importante dans son développement personnel. Le judo va être va structurer sa manière de voir la vie, l'existence et le monde. Et aujourd'hui encore, il utilise cette façon de voir les choses à travers uniquement le rapport de force que lui a inculqué le judo. Et dans ce petit club, qui est devenu aujourd'hui un grand club de judo, il va effectivement rencontrer une bande de copains qui vont rester ses amis pour la vie. Et ce qui est spectaculaire et incroyable, c'est qu'aujourd'hui, notamment par exemple les frères Rothenberg, qui sont ses amis d'enfance, sont aujourd'hui des oligarques puissants. Et il est intéressant de noter qu'une partie des chantiers, à la fois des Jeux de Sotchi et de cette Coupe du Monde, sont revenus par exemple aux frères Rothenberg et à leur entreprise de construction.
Julien Vercueil, je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris, l'INALCO. Ce mondial est le plus cher de l'histoire. L'ardoise se chiffre à quelque 12 milliards d'euros. Alors, certes, on n'a pas encore vu le Qatar, ça ce sera en 2022, là on peut penser que les compteurs vont exploser davantage encore. Néanmoins, par rapport à l'économie russe, et c'est ce qu'expliquait tout à l'heure François Stomm, on peut imaginer que les investissements vont paraître surdimensionnés ou en tout cas inadaptés aux besoins de la population, mais très adaptés aux intérêts des oligarques.
Tout dépend du type d'investissement auquel vous faites référence. Il y a des investissements d'infrastructures routières et de transport, généralement, qui, eux, peuvent être considérés comme des investissements à usage multiple, et donc qui peuvent être réutilisés avec profit pour la population et pour les entreprises par la suite. C'est d'ailleurs ces investissements-là qui sont les plus lourds en général, hein, plus que les stades. Et il y a d'autre part les stades, où là effectivement on peut se demander si le stade de Saransk, une ville dont le club est en 3e division, va remplir tous les jours ses gradins une fois que la Coupe du Monde sera passée. Donc la question du surdimensionnement, c'est une question qui est liée à l'investissement, c'est-à-dire que normalement un investissement est lié à une période de vie assez longue, et donc il est normal qu'on ne puisse pas l'amortir immédiatement. Mais il y a un autre aspect qu'il faut voir dans l'impact que peut avoir un investissement sur l'économie de la Russie, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un investissement, cela crée une demande pour les entreprises, et ces entreprises elles-mêmes ont des fournisseurs qui vont bénéficier de proche en proche d'effets certes amortis, suivant qu'on est loin ou proche du donneur d'ordre initial, mais qui sont des effets importants. Alors, ce que les officiels aujourd'hui disent de cet effet multiplicateur, c'est-à-dire de l'effet sur la croissance économique de la Russie que l'on a pu observer depuis 2013, c'est-à-dire depuis le début des travaux. Hein. Cet effet multiplicateur est estimé à 5. Ça voudrait dire qu'on a multiplié par 5 l'effet sur la croissance provoqué par ces investissements-là.
Ce qui est ça, plus c'est important, le discours officiel.
Oui, ce qui est plus important que ce qu'on d'habitude, on a l'habitude d'observer. Hein. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais cela aurait entraîné un surcroît de croissance par an, qui est estimé par l'ancien vice-premier ministre Arkady Dvorkovitch, qui est un économiste, de 1% du PIB de la Russie depuis 2013.
Certes, mais on se souvient quand même de Sochi, les Jeux Olympiques de Sochi, avec des dépassements de budget qui ont profité à un certain nombre d'oligarques, auxquels on demandait, bien évidemment, de contribuer à la grandeur nationale.
50 milliards de dollars.
François Stom.
50 milliards de dollars.
50 milliards de dollars. Et là, quand même, une corruption à très grande échelle.
Bien sûr. Premier point, effectivement, la référence à Sochi est pertinente. Elle est pertinente parce qu'elle nous permet d'avoir une première estimation de ce que ça pourra être dans 3-4 ans quand on reviendra en arrière.
Quand on fera les comptes.
Quand on fera vraiment les comptes complètement, exactement. Donc, les Jeux Olympiques de Sochi ont battu tous les records été comme hiver, ce qui est un peu étonnant parce que normalement les Jeux Olympiques d'hiver coûtent un peu moins cher que les Olympiques d'été. Hein, les infrastructures sont moins importantes.
Oui, sinon qu'à Sochi, il n'y avait pas beaucoup de neige non plus. Donc.
Mais il y en a eu suffisamment pour que tout se déroule normalement. 51 milliards, c'est donc tout à fait considérable. On a beaucoup glosé sur une route, la route d'Adler à Krasnaya Polana, qui était une route qui a coûté à elle toute seule 6 milliards de dollars, ce qui a fait dire à certains que si elle avait été recouverte de caviar sur 1 cm d'épaisseur, elle aurait coûté le même prix. Donc, mais c'est pour montrer qu'il y a eu un des dépassements de coûts absolument phénoménaux. Les premières estimations qui avaient été données au moment de l'obtention des JO étaient de 12. On est passé à 50, donc une multiplication par 4 et demi, c'est beaucoup. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'on peut, avec une règle de trois toute bête, transposer cette estimation à la situation actuelle? En fait, je vais vous répondre...
Au mondial, donc, de ce
oui,
mois-ci.
C'est-à-dire, est-ce que les chiffres qui nous sont donnés aujourd'hui, 14 milliards de dollars, donc 12 milliards d'euros, comme vous l'avez bien dit, doivent être multipliés par 4,5 pour avoir le coût total? Ma réponse est non. Je peux me tromper, hein, mais ma réponse est non, pour la raison suivante. Non pas que tout d'un coup la corruption ait disparu en Russie, c'est pas du tout la question, mais c'est que les conditions économiques et financières de la Russie n'ont pas été les mêmes entre 2013 et aujourd'hui de ce qu'elles avaient été avant les Jeux Olympiques de Sochi. Il a fallu de toute façon faire beaucoup plus attention aux coûts. Il a fallu aussi éviter les regards critiques que l'Occident porterait inévitablement sur des dépassements de budget tout à fait faramineux. On a connu des scandales liés à la corruption, notamment au stade Zénith de Saint-Pétersbourg.
Ça, c'est Gazprom, hein, c'est donc, évidemment le monopole gazier qui est le principal sponsor du football en Russie.
On en connaîtra d'autres, évidemment. Il y aura des dépassements et il y aura des cas de corruption, mais je ne crois pas qu'on arrivera aux dérives qu'on a vues à Sochi.
Alors évidemment, l'autre dérive à Sochi, ça a été l'incroyable ampleur du dopage qui a valu à la Russie cette humiliation suprême d'être exclue des Jeux d'hiver en Corée du Sud. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et vous êtes attaché à ce personnage absolument central qui a été démis de ses fonctions de grand organisateur du mondial, mais qui est néanmoins toujours là, et qui s'appelle Vitaly Mutko.
Oui, Vitaly Mutko, c'est quelqu'un qui connaît bien, et très bien même, le président russe, Vladimir Poutine, puisque les deux hommes se sont rencontrés la première fois au début des années 90, c'était à la mairie de Saint-Pétersbourg. Alors, Vitaly Mutko, c'est effectivement, enfin pendant des années, c'était le monsieur sport en Russie, celui qui connaît tous les secrets des stades et des vestiaires. Il a été pendant plus de 8 ans le ministre des Sports, et il a lui-même effectivement piloté cette Coupe du Monde de football depuis son obtention par la Russie, c'était en 2010. Mais aujourd'hui, cet ancien membre du Parti communiste de l'Union soviétique a perdu la plupart de ses casquettes, celle de président de l'Union russe de football, et puis celle aussi de président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de 2018, ou encore celle du membre du comité exécutif de la FIFA. Il a été rattrapé effectivement l'automne dernier par ce scandale national de dopage. Il a été sanctionné par le CIO qui lui a interdit à vie toute participation à l'organisation des futurs JO. Le CIO, vous le soulignez, et on s'en souvient, avait aussi interdit à l'équipe nationale russe de participer aux JO de Corée du Sud, une décision qui avait fait l'effet d'un tremblement de terre de niveau 9, écrivait à l'époque le quotidien Moskovski Komsomolets. Pressé par le Kremlin d'obtenir des résultats sportifs aussi prestigieux qu'à l'ère soviétique, Vitaly Mutko s'est retrouvé englué dans un système archaïque où le dopage est souvent le seul moyen de faire carrière dans le sport, explique le journal suisse Le Temps. Alors aujourd'hui, à 59 ans, Vitali Mutko vit cette Coupe du Monde un peu comme un fantôme du football russe. Mais vous avez raison, il n'a pas tout perdu, puisque non seulement il est toujours vice-premier ministre de Russie, mais son retrait de la fédération n'est que temporaire.
Mais donc, on a quand même pu prouver son implication personnelle dans le dopage de la plupart des athlètes russes.
Oui, et effectivement, pour comprendre à quel point ce dopage des athlètes russes était important, y compris d'ailleurs parmi les footballeurs, et à quel point il était aussi organisé, il faut écouter le lanceur d'alerte, Grigory Rodchenkov, ce russe qui est aujourd'hui réfugié aux États-Unis, connaît le sujet par cœur, nous raconte le journal The Independent, car c'est lui qui a dirigé pendant des années ce programme de dopage sous les ordres du ministre de sport de l'époque, Vitali Mutko. Non seulement Grigory Rodchenkov alors, a publié en début d'année ses carnets dans le New York Times, dans lesquels il raconte en détail comment il truquait les contrôles antidopage, mais récemment il a aussi participé à une conférence de presse en ligne dans laquelle, rapporte le journal The Independent, il explique que 34 footballeurs russes ont été contrôlés positifs, mais ont vu leurs tests maquillés par le laboratoire que dirigeait Rodchenkov. Mon ancien patron, Vitali Mutko, avait demandé qu'aucun footballeur ne soit sanctionné pour dopage et d'éviter tout scandale à propos de l'équipe nationale de football, témoigne ce danseur d'alerte dans le journal britannique. Alors parmi cette liste des 34 noms de footballeurs, Rodchenkov affirme qu'il y en a un qui figure aujourd'hui dans l'équipe russe de football. Pourtant, poursuit celui qui est aujourd'hui visé par un mandat d'arrêt international lancé par la Russie, la question du dopage dans le football russe reste minime quand on la compare à ce qui se passe dans d'autres sports comme l'athlétisme ou bien sûr l'haltérophilie.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
François Stomme, l'ampleur voulue par Vladimir Poutine, qui entame donc un nouveau mandat, il a été réélu triomphalement au mois de mars dernier, c'est aussi dans sa vision de son propre pouvoir et des exploits qu'il lui reste à accomplir, un moment opportun pour balayer en quelque sorte tous ces miasmes, qu'il s'agisse du dopage dont parlait Eric, qu'il s'agisse de la corruption dont on parlait avec Julien Vercueil, qu'il s'agisse aussi des affaires de l'affaire Skripal en Grande-Bretagne. D'ailleurs, les Britanniques, avec je crois les Polonais et les Islandais, sont les seuls à boycotter complètement, au niveau des officiels en tout cas, ce mondial.
Oui, Vladimir Poutine est très conscient que les Occidentaux ont la mémoire courte et donc en créant un événement médiatique fracassant comme cette Coupe du Monde, on va pouvoir éclipser tous les événements médiatiques qui ont précédé l'affaire Skripal les affaires de dopage, bien sûr, et l'annexion de la Crimée.
Et l'ingérence électronique.
Oui, l'ingérence dans les élections.
Brexit, campagne américaine, voilà.
Enfin,
un peu chez nous.
C'est une vaste opération de blanchiment de la Russie qui vise à remise à zéro des compteurs de façon à faciliter, encore une fois, les efforts de la diplomatie russe, qui, eux, sont toujours les mêmes. Il y a une extraordinaire, si on compare la diplomatie russe à la diplomatie des pays occidentaux, il y a une extraordinaire persévérance dans la politique étrangère du Kremlin, qui poursuit ses objectifs, qui a la continuité nécessaire pour les mener, qui a les instruments nécessaires aussi pour les mener les moyens d'orchestrer tous ces instruments. Si on compare aux Occidentaux, dont la politique étrangère est essentiellement velléitaire et sujette aux mouvements d'humeur et aux sondages.
Ah ben ça, évidemment, c'est plus compliqué en démocratie que dans un régime autoritaire, on peut dire ça comme ça.
Les objectifs demeurent les mêmes, mais ces objectifs seront plus faciles à atteindre si, encore une fois, on arrive à faire oublier aux Occidentaux l'expérience difficilement acquise durant les quelques années précédentes et qu'on reparte, qu'on reparte à zéro. L'objectif du Kremlin, c'est un reset, surtout avec l'Europe, un redémarrage.
Ce qui est intéressant, on se souvient qu'au moment des Jeux de Sotchi, les troubles en Ukraine et surtout dans la partie orientale s'enflammaient. Et on a vu que Vladimir Poutine, dans une conférence de presse, sa conférence de presse annuelle, je crois, qu'il donne en direct à la télévision, je crois que c'était la semaine dernière, a émis une mise en garde à propos de l'Ukraine en disant « pas question ». Qu'il se passe quoi que ce soit en Ukraine qui vienne gâcher notre fête.
Cette expérience, effectivement, a été très, très douloureuse pour Vladimir Poutine, puisque l'éclat des Jeux Olympiques de Sotchi, pour lesquels il avait tellement investi, ben, cet éclat était quand même terni par l'affaire ukrainienne.
Alors, il n'a pas accordé de grâce présidentielle cette fois-ci, contrairement à ce qui se passait en 2014. Et en particulier, il y a ce cinéaste ukrainien qui s'appelle Oleg Sentsov, qui est en grève de la faim, qui est emprisonné pour des raisons plutôt obscures. Et là,
oui, ben, Vladimir
Poutine, ça trouble beaucoup.
Il se sent en position de force parce qu'il a le sentiment, et on le disait tout à l'heure, on soulignait l'importance de sa formation de sportive. Je crois qu'il y a un autre élément important qui lui est resté de cette période de sa jeunesse, c'est l'importance de la volonté. C'est qu'il est très conscient que la Russie a un avantage compétitif par rapport aux autres pays, c'est la volonté, justement. Le triomphe de la volonté. Il a présenté dans un film, un film sur l'annexion de la Crimée a été fait un an plus tard. Et l'accent de ce film, c'était justement ce triomphe de la volonté. Poutine disait, nous, on sait pourquoi on se bat. Les Occidentaux ne le savent pas.
Sylvain Dufraisse, on retourne vers vous. Je rappelle que vous êtes à Moscou. Vous êtes un historien du sport à l'université de Nantes. Depuis que le sport existe, enfin depuis en tout cas Olympie, le sport a toujours été politique. Ça a commencé par la compétition entre les cités grecques, mais jusqu'à quel point est-ce que la rivalité entre l'Union soviétique hier, la Russie aujourd'hui et les États-Unis d'Amérique surtout, jusqu'à quel point est-ce que cette rivalité continue d'animer les ambitions sportives russes?
En ce qui concerne en effet la politique la politicisme supposé du sport, ça on sait désormais, enfin il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur cet aspect-là et qui ont montré en fait que toujours même la question de la politisme était une question de politique. Alors sur la question de la rivalité entre l'URSS et les États-Unis, en fait cette rivalité elle a commencé tout au début de la guerre froide, à partir de 48, au moment où les soviétiques prennent part aux compétitions internationales pour les premières fois, puisqu'auparavant, en fait, les soviétiques n'étaient pas dans les fédérations internationales. Ils avaient souhaité, entre 1921 et 1937, organiser leur propre organisation mondiale du sport, qui s'appelait l'International Rouge du Sport. Mais cette Internationale Rouge du Sport, elle a peu de succès. Elle fédérait quelques mouvements ouvriers et sportifs. Mais, en gros, les soviétiques n'y trouvaient pas d'adversaires à leur taille. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques entrent dans les fédérations internationales. C'est en 1946 d'abord pour la Fédération d'haltérophilie et la Fédération de football, puis ensuite pour l'ensemble des autres fédérations. Et les soviétiques entrent au CIO en 1951. La rivalité, elle est au début en fait assez atténuée. Par exemple, lors des Jeux Olympiques d'Helsinki, ce que les soviétiques veulent mettre en avant, c'est le côté fraternel, le fait que, voilà, dans l'espace sportif, dans l'espace des stades, on peut se côtoyer. Donc il y a même le leader de l'équipe d'athlétisme soviétique qui va féliciter le perchiste qui a remporté la médaille d'or américain, et tout cela donne des photographies, ça donne également des reportages qui montrent en fait que les soviétiques sont plus souriants, sont des sportifs fraternels, et que dans l'espace du sport on peut se retrouver. La rivalité en fait elle va être très forte à partir de la fin des années 50, et elle est encore plus accentuée dans les années 70. Là, la concurrence est massive en fait, et l'objectif c'est de gagner le plus de médailles possible aux Jeux Olympiques. Et c'est pour ça, par exemple, que les Soviétiques essayer de développer massivement certains sports, en particulier le sport féminin, puisque c'était un grand pourvoyeur de médailles, d'autres disciplines dans lesquelles il peut y avoir beaucoup de médailles. C'est pour cela, par exemple, qu'en athlétisme, les Soviétiques cherchent à développer l'athlétisme et à être forts en athlétisme, et également en gymnastique. Ensuite, certains sports collectifs sont valorisés aussi, comme le hockey sur glace ou comme le basketball, parce que l'affrontement peut être, on peut affronter les États-Unis sur les terrains.
Et on peut gagner. Mais ce qui est intéressant pour en revenir au football et à ce mondial, c'est que le foot n'est pas véritablement une spécialité russe. À part la victoire écrasante sur l'Arabie Saoudite jeudi, l'équipe russe n'est pas connue, m'a-t-on dit, pour ses performances, à tel point d'ailleurs que le patron de l'équipe russe s'attendait à être vertement tensé par Vladimir Poutine si jamais il ne passait même pas le premier match.
On a évoqué tout à l'heure le statut un peu particulier donc du football en URSS, et aujourd'hui en fait le football russe a beaucoup souffert de la période helsinienne, du moment en fait où les anciennes structures de formation, les infrastructures aussi pour dans lesquelles on s'entraînait ont été laissées pour compte, et donc le football russe a beaucoup pâti de cette période et du manque d'investissement à la fois de l'État mais aussi à la fois des collectivités locales dans le sport.
Mais c'est à ce moment-là, Julien Vercueil, que les oligarques, donc en tout cas, ces quelques hommes qui, dans le chaos de la présidence de Boris Yeltsin, ont pris le contrôle d'un certain nombre d'entreprises d'État ou de secteurs entiers de l'économie, enfin surtout dans les matières premières, que ce soit le pétrole, l'aluminium, etc. Et aussitôt, ils ont voulu acheter en quelque sorte, ou en tout cas financer, des clubs de foot. Et pas seulement Abramovich, Chelsea, ça a commencé avec Berezovsky, enfin dans les années 80.
Oui, je crois que l'idée, c'était un investissement à l'international un peu tous azimuts. Évidemment, il n'y avait pas que les clubs de foot qui étaient dans leur collimateur à l'ouest. Il y avait beaucoup d'autres actifs.
Ils ont commencé Russie quand même.
Ils l'ont fait en Russie, mais pas forcément toujours de bon gré. Ça a été parce qu'ils se sont rendus compte, enfin certains se sont rendus compte, ceux qui avaient investi, que finalement, la rentabilité de cet investissement en Russie était faible du fait que les recettes publicitaires, les recettes de sponsoring ne pouvaient pas être à la hauteur de ce qu'on pouvait trouvé à l'ouest. Donc ceux qui avaient le plus de succès ont trouvé à l'ouest ce qu'ils ne pouvaient pas trouver en termes de volume de rentabilité et de rentabilité en Russie. Maintenant, ces investissements n'ont pas toujours non plus été très 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 rentables. Il faut les voir aussi comme une façon de mettre d'une manière un peu visible et avouable à l'abri une partie des sommes provenant des recettes d'exportation de leurs activités principales, qui sont des activités d'extraction de matières premières souvent. Hein. Donc c'est un peu cette façon-là aussi de diversifier ses actifs, de diversifier ses placements que le football a pu être, de cette façon-là, que le football a pu être investi par ces oligarques.
Et on voit les mêmes oligarques à l'œuvre pour financer le mondial, en tout cas pour financer un certain nombre de stades, un certain nombre d'infrastructures, et ce sont à peu près les mêmes personnages. Il y a donc Alexei Miller qui est le patron de Gazprom. Alors lui n'est pas un oligarque au sens classique du terme, mais c'est néanmoins l'un des personnages les plus puissants de Russie, et il est à la tête de Gazprom déjà depuis un certain temps, très proche de Vladimir Poutine et de Medvedev, si ma mémoire est bonne. Gazprom, qui est donc le grand financier du football russe.
Oui, un des grands financiers, puisque par exemple RGD finance aussi une équipe du Lokomotiv. Enfin, vous avez aussi des traditions qui viennent de l'histoire des clubs soviétiques. Gazprom, c'est un cas intéressant parce qu'évidemment on n'est pas sur la même échelle, on joue pas dans la même division, si j'ose dire. Donc pour Gazprom, c'est aussi une façon d'être présent dans le football mondial, C'est-à-dire Gazprom est un des partenaires officiels de la FIFA, de la Fédération internationale.
On voit les bandeaux Gazprom dans toutes sortes de rencontres qui n'ont rien de russe.
Voilà, c'est donc aussi une façon de valoriser l'image de Gazprom. Et là, on retrouve la question du sport comme vecteur de la géopolitique, puisque la compagnie Gazprom est une compagnie d'État, c'est une compagnie internationale, c'est une compagnie qui est souvent impliquée dans des jeux géopolitiques très importants. Pour cette raison-là, et pour le fait qu'elle est fortement liée à des opérations douteuses, elle n'a pas une bonne presse à l'Ouest. Donc, de manière habile, trouve dans le sport un moyen de satisfaire les ambitions de soft power dont on parlait tout à l'heure. Et pour cela, il faut, comme une entreprise commerciale, sponsoriser la FIFA.
C'est ce que les Chinois ont très bien compris, parce que ce qui est saisissant depuis quelques mois, c'est l'irruption de la Chine dans le foot business. Donc pas tellement au niveau sportif, là, ils sont pas encore tout à fait... au niveau international, mais il semble que le président chinois a mis au point un plan en 5 points, et il faut que en 5 ans, il y a des usines à fabriquer des champions de foot. Ils achètent évidemment les talents sur le marché international, mais on les voit, ai-je lu, dans tous les produits qui sont consommables en Russie pendant ce mondial. Il y a par exemple une marque de glace chinoise, je crois, avec des parfums assez étranges. Mais ils sont très présents. Ils ont compris, là aussi, que c'est un vecteur
Évidemment, l'économie chinoise et la puissance chinoise est devenue un acteur mondial. Il est impensable qu'elle ne soit pas présente dans le football, même si, à l'image d'ailleurs, de manière assez symétrique des États-Unis, elle n'est pas qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde.
Mais donc, les États-Unis se sont jamais vraiment intéressés au football, malgré, je crois, Henry Kissinger, qui avait fait de grands efforts à un moment donné pour le populariser.
Je me permets de vous faire remarquer que l'équipe féminine de football américaine est la meilleure du monde.
C'est exact. Bravo.
Pour revenir...
Enfin, là, vous disiez vous-même, les hommes ne sont pas qualifiés.
Oui, juste pour revenir sur la Chine, moi, je crois qu'il y a un point intéressant à noter sur la Chine. C'est que ici, on a aussi, de la part de Xi Jinping, un calcul sur sa population intérieure. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un véritable et massif engouement pour le football du peuple chinois. Et là, c'est quelque chose de relativement récent. Et c'est donc quelque chose aussi qu'il a compris, non pas simplement en matière de politique extérieure et de géopolitique, mais également et surtout peut-être en matière de politique intérieure. C'est une façon contrôler et de proposer à son peuple des possibilités de fédération, en fait, hein, et de cohésion sociale. Donc je pense qu'il faut aussi lire ça sous cet angle-là. Bien sûr, il y a toute une série d'entreprises extrêmement compétitifs dans les produits de consommation courante, qui se sont frottés aux méthodes de marketing internationales et qui sont maintenant capables de se projeter à l'international, qui seront présentes en Russie, parce que c'est là qu'en Russie, il va y avoir des perspectives de croissance dans les semaines qui viennent pour elles.
J'ai demandé à Jean-Christophe Collin, qui est donc grand reporter au journal L'Équipe et qui est en ce moment à Grozny, en Tchétchénie, pour couvrir ce mondial, et puis il ira bien sûr couvrir d'autres rencontres. Je lui ai demandé précisément jusqu'à quel point, pour le Kremlin, ce facteur de cohésion nationale à travers le football est aussi une considération importante.
Tout dépend de la manière dont va se passer ce mondial. Il planait au-dessus de ce mondial le risque de violence. On sait que les hooligans russes sont particulièrement réputés pour leur violence. Ils ont fait parler d'eux lors du championnat d'Europe en France en 2016. Il y a eu des bagarres spectaculaires, des blessés, et donc ça nuit gravement à l'image de la Russie. Là, les services de sécurité, le FSB, ont pris les choses en main de manière à ce que ces hooligans ne puissent pas agir durant cette Coupe du Monde, parce que ça aurait des conséquences dramatiques et catastrophiques pour l'image de la Russie. Donc les services de sécurité ont travaillé énormément en amont. Beaucoup de gens sont interdits de stade. Ils ont reçu des visites du FSB, ces hooligans, pour leur dire « surtout ne bouchez pas une oreille, parce qu'il va vous arriver sinon de graves problèmes ». Et puis aussi, ces gens sont en général extrêmement nationalistes, et peut-être n'ont-ils pas envie non plus d'abîmer eux-mêmes l'image de la Russie. Donc je pense que du point de vue de la violence, des rixes qu'on craignait, les choses risquent d'être sous contrôle. Ensuite, il y a un deuxième danger qui plane au-dessus de cette Coupe du Monde et pour l'image de la Russie, c'est le racisme. Le racisme, notamment dans les stades. Il y a beaucoup d'ultras qui ont des manifestations durant les matchs du championnat russe, d'actes racistes dans les stades. Et pareil, là, la fédération, les autorités ont très bien compris que ça pouvait être vraiment un danger pour l'image de la Russie, et on travaillait en amont pour essayer de faire en sorte de contenir ce problème. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer, et ça serait totalement dommageable pour l'image de la Russie. Ensuite, il y a la situation des homosexuels qui va être passée sous la loupe, notamment là, aujourd'hui, avec la récupération par Kadyrov de la présence de l'équipe d'Égypte à Grozny. Ça commence à quand même à poser quelques problèmes. Il y a eu des articles un peu dans la presse du monde entier pour se demander comment la FIFA avait pu accepter qu'on laisse l'Égypte aller faire son camp de base à Grozny et ainsi être récupéré par Kadyrov. Donc en fait, tout dépend de la manière dont va se dérouler ce mondial, s'il y a des incidents ou pas. Et après, ça peut être un pari réussi pour Vladimir Poutine, dans la mesure où ensuite, le spectacle sportif peut tout emporter si ça se passe bien. Et notamment, par exemple, si l'équipe de Russie, qui a pourtant jusqu'à présent des piètres résultats, réussit à sortir du premier tour et qu'il y a un engouement populaire qui se crée autour de cette équipe, ça peut être à terme un pari réussi au-delà du paradoxe, c'est-à-dire ces dépenses somptuaires dans un pays qui a quand même de grosses difficultés économiques.
Jean-Christophe Collin, vous avez effectué un long périple, 3 semaines, je crois, dans les profondeurs de l'immense Russie, sur le Transsibérien. Donc vous avez pu, vous parlez russe couramment, vous y aviez étudié il y a quelques années. Quel est l'impact, selon vous, de ce mondial sur l'opinion publique, non pas tellement dans les grandes villes, mais encore une fois, en Sibérie, par exemple? Comment est-ce que les gens réagissent, notamment par rapport à ces investissements énormes qui, j'imagine, contrastent assez violemment avec leur niveau de vie?
Alors, c'est assez ambivalent, même un peu paradoxal. C'est-à-dire que les gens sont grés à Vladimir Poutine d'avoir restauré un peu la grandeur perdue de la Russie, et notamment à travers le sport, les événements sportifs. Mais c'est des événements qui ont coûté extrêmement cher, et notamment beaucoup d'argent est parti dans la corruption. Ici, le stade Petrovski à Saint-Pétersbourg, c'est devenu le stade le plus cher du monde, notamment parce qu'on estime que près de la moitié du prix des travaux a été détourné en corruption, ce qui était déjà le cas de Sochi. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on sait aujourd'hui d'un des problèmes des mandats de Vladimir Poutine, c'est le manque d'infrastructures, le manque d'investissement dans les infrastructures, de ne pas avoir utilisé la manne pétrolière et gazière pour investir dans les écoles, les routes, les hôpitaux, dans toutes les infrastructures du pays. Or, cette Coupe du Monde est la plus chère de l'histoire de la Coupe du Monde, comme les Jeux de Sochi étaient les plus chers de l'histoire des Jeux. Donc on a beaucoup investi dans les infrastructures sportives, mais qui vont à terme peu servir à la population. Par exemple, il y a beaucoup de stades qui ont été construits dans cette Coupe du Monde alors qu'il n'y a pas de club de foot ou des petits clubs de foot. Donc ça va rester des éléphants blancs, donc des énormes investissements et qui ne serviront pas à terme à la population. Donc je pense que dans un certain nombre de lieux où ont été construits, il y a un espèce de ressentiment de la population. Il y aura une fierté sur le moment. J'ai rencontré des gens effectivement à travers ce périple qui m'ont dit être contents que le monde vienne à eux, vienne voir la Russie, parce que c'est des gens qui ont quand même un grand sens de l'hospitalité. Mais en même temps, une fois que la Coupe du Monde sera finie, ils vont revenir à leur quotidien et on sait dans quelles difficultés économiques ils se trouvent. par ailleurs, j'ai été surpris durant ce voyage. Donc, je suis parti de Saint-Pétersbourg jusqu'à Vladivostok en train pendant 3 semaines, dans le Transsibérien notamment, où j'ai rencontré pas mal de gens. Et j'ai été frappé à 2 ou 3 reprises. Comme ça, on s'est fait agresser uniquement parce qu'on était occidental. Et ça fait quand même très longtemps que je vais en Russie. Et c'est vraiment la première fois. Au contraire, avant, c'était un pays, dès que vous disiez que vous étiez français, il y avait un allant naturel vers vous. On vous citait Victor Hugo, Balzac. Il y avait ce rapprochement des cultures françaises et russes. Et vous étiez vraiment le bienvenu. Et là, j'ai l'impression que le discours anti-occidental que tient Poutine commence à infuser dans les têtes et les esprits et dans les cœurs. Et ça, ça m'avait vraiment frappé. Ça vaut pas statistique. Hein, j'ai pas rencontré suffisamment de personnes. Mais ça m'a vraiment surpris parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Lors de mon déplacement en Russie.
François Stomme, pour reprendre l'expression de Jean-Christophe Collin, le fait que le discours de Poutine infuse au sein de l'opinion publique russe, en fait, c'est une victoire pour lui. Que tous les ingrédients qu'il utilise depuis 18 ans maintenant pour galvaniser le nationalisme russe, depuis l'histoire jusqu'à la religion orthodoxe, tout cela finalement fonctionne.
Oui, tout cela fonctionne et c'est, je pense que cette Coupe du Monde est aussi intéressante parce qu'elle va pouvoir nous permettre de mesurer à quel point le contrôle du FSB sur la population est efficace.
Alors le FSB, il faut le rappeler, c'est donc le successeur du KGB, le corps d'origine d'ailleurs de Vladimir Poutine. Ce sont les services.
Étant donné justement les risques que posent les fans très violents, les fans russes.
Mais on les avait vus à l'œuvre à Marseille,
oui,
si ma mémoire est bonne.
Oui. Mais... est-ce que le FSB va réussir à contrôler tout ça et également les manifestations racistes bien connues. C'est intéressant. Moi, je suis curieuse de voir si le contrôle est suffisamment efficace pour venir à bout de ces phénomènes qui sont encore une fois des phénomènes qui dérivent eux-mêmes de la politique de Poutine, qui sont l'expression de ce qui est devenu la Russie de Poutine.
Le fait que la plupart des dirigeants occidentaux bout de ce mondial. Le président Macron lui a dit qu'il irait si les Bleus arrivent en demi-finale. Mais il faut bien voir qu'à la cérémonie d'ouverture, par exemple, jeudi dernier, aucune des personnalités qui d'habitude sont en randonnion.
Les vassaux de Poutine qui étaient présents.
C'est-à-dire les républiques du Caucase.
Oui, les républiques sécessionnistes, les dirigeants des républiques sécessionnistes et puis les républiques d'Asie centrale. Oui, l'ouverture n'était pas très très satisfaisante pour Poutine, mais encore une fois,
il y avait le prince héritier d'Arabie Saoudite.
Voilà,
donc on peut penser comme l'alliance semble-t-il se resserre et notamment sur le plan du pétrole, on peut penser que là, même si l'équipe saoudienne s'est fait battre à plate couture,
pour Poutine l'important,
le dialogue était important.
C'est l'opinion mondiale. Ce n'est pas les leaders dans le cas de cette Coupe du Monde. C'est vraiment de retourner l'opinion mondiale et montrer que la Russie cesse de faire peur, au fond.
Vis-à-vis des Européens, nous expliquiez-vous tout à l'heure, mais vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des États-Unis, qui restent quand même les grands protagonistes, il faut bien reconnaître que l'Europe est marginalisée, on le vérifie d'ailleurs dans le chaos du Moyen-Orient, alors que Vladimir Poutine, lui, s'est imposé comme un protagoniste majeur. Donc, pour Poutine, certes, il veut attirer vers lui, comme vous nous l'expliquiez, les Européens, mais en même temps, ses interlocuteurs principaux, ce ne sont pas les Européens.
Oui, mais lorsqu'il pourra s'appuyer sur les Européens, il deviendra un interlocuteur beaucoup plus crédible, ayant beaucoup plus de poids, à la fois face aux États-Unis et face à la Chine.
Julien Vercueil, dans cette espèce de triangle, donc Russie, États-Unis, Chine, là, les enjeux économiques et notamment gaziers redeviennent importants parce qu'on se souvient que lorsque la Russie a été frappée de sanctions et notamment sur le plan énergétique, c'est avec la Chine qu'un énorme contrat a été signé.
Oui, et un contrat aussi qui permet de remettre un peu en perspective les ordres de grandeur. Parce que autant sur le plan géopolitique, de l'image, etc., on peut imaginer un triptyque, autant sur le plan économique, c'est absolument pas le cas. On a des ordres de grandeur qui sont tout simplement tout à fait différents. On a par exemple, entre la Chine et la Russie, un ordre de grandeur de 1 à 8. Aujourd'hui, l'économie de la Chine est 8 fois plus importante que l'économie de la Russie. Donc, c'est bien ça, la difficulté fondamentale, en fait, à laquelle est confronté Vladimir Poutine, c'est que sa posture et sa puissance et son image géopolitique ne s'appuient pas sur une puissance économique de même ordre de grandeur. Il s'agit bien d'un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie de la Russie au taux de change courant est 65-66% de l'économie italienne. Voilà, hein. Donc il y a cette difficulté. Donc revenons au contrat gazier. Effectivement, ça a été un point tout à fait important parce qu'il était extrêmement vital pour la Russie de montrer qu'elle pouvait avoir une alternative à sa surdépendance aux clients européens.
Parce que là, l'Europe retrouve son importance.
Voilà, parce que l'Europe retrouve son importance, puisque pour ce qui est du gaz, qui est l'un des tout premiers postes d'exportation de la Russie, l'Europe est encore tout à fait déterminante pour les recettes d'exportation de la Russie. Et donc il fallait rapidement, compte tenu de la dégradation de la situation avec l'Europe, compte tenu du fait que l'Europe cherche de son côté à essayer, pour l'instant sans y parvenir, il faut bien l'avouer, mais elle cherche à diversifier ses sources énergétiques et à moins dépendre des exportations de la Russie, il était important de décrocher ce contrat. Et ce contrat avait été négocié pendant 10 ans auparavant. Et il a été signé juste après l'aggravation des relations avec l'Union européenne. J'en déduis, de manière tout à fait externe au problème, que ceux qui ont fait les concessions, ce sont les Russes et pas les Chinois. Hein. En particulier sur la base du tarif. Voilà. Donc ça a permis de donner une bouffée d'air. Ça a permis de diversifier objectivement les relations de l'économie de la Russie, mais ça n'a pas réglé les problèmes économiques de la Russie.
François Stomme, on arrive à la conclusion de cette émission. Pour que Vladimir Poutine réussisse son mondial, donc on le saura le 15 juillet, quel que soit le vainqueur, et quels que soient nos voeux à tous sur son identité nationale, est-ce que d'une certaine manière, Vladimir Poutine a déjà gagné ?
Oui, il a gagné en tout cas une première manche. Il a gagné une première manche en tenant cette Coupe du Monde en Russie. Et malgré, encore une fois, tout ce qui précède, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure.
Mais enfin, on se souvient aussi que les méthodes pour obtenir ce mondial sont entachées d'énormément de soupçons. C'était les derniers jours de M. Blatter, tête de la FIFA.
Mais il a gagné, il a réussi. Il a réussi à obtenir cette Coupe du Monde, à la tenir. Donc il a gagné cette première manche. Alors évidemment, il y a des risques parce que un État policier qui fait semblant d'être libre, et pendant cette période, il est obligé de faire semblant d'être libre, il court des risques. Hein. Il y a des risques.
Et on verra donc le résultat le 15 juillet prochain. Merci à vous tous. Merci à vous, François Stomme. Je rappelle l'excellent ouvrage que vous avez publié cette année chez Desclés de Brouwer, Comprendre le poutinisme. Merci à Jean-Christophe Collin, qui vient de publier aux éditions Stock le livre noir du sport russe. Merci à Julien Vercueil, votre ouvrage « Économie politique de la Russie » va paraître en août prochain dans la collection Point, chez l'éditeur Point, voilà. Et merci à vous, Sylvain Dufraisse, d'avoir été avec nous par téléphone de Moscou. Vous avez publié un très bon papier sur la passion du football en Russie, avec un point d'interrogation, dans le magazine L'Histoire, ce mois-ci. Merci à Eric Scholl, bien sûr, de Courrier International, à Luc-Jean Reynaud, à la réalisation, Alexandre Dang à la technique, Meryl Moneghetti et Tatiana Lehat ont préparé cette émission comme chaque semaine, et vous trouverez toute la bibliographie nécessaire sur notre site internet. Comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.